Mais c'est pas possible. T'es mégalomane, t'as vraiment trop de projets.
Tu me sembles dangereux.
Écoute, à l'avenir, on va s'éviter, c'est mieux.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'accueille Fabrice Michaud. Bonjour Fabrice et merci d'être au micro de ce podcast.
Bonjour Mélodie.
Alors, on a entendu avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et te présenter ?
M'en dire un peu plus ou me présenter ? Je vais me présenter comme si on sera débarrassé de ça, puis après je te parle des phrases, ça te va ?
C'est parfait.
Mais peut-être il y a les deux qui vont ensemble. En fait, j'ai 8-9 métiers, mais en fait, c'est en me retournant que j'ai vu que les autres appelaient ça des métiers. Alors, ça va aller avec les phrases. Moi, j'ai démarré comme directeur chez Monoprix. J'ai une formation de sciences politiques et de gestion d'entreprise. J'ai démarré chez Monoprix, chez Hachette, dans un cabinet de consultant, tout en travaillant 10 ans à la fac, parce que j'ai des gens qui venaient me chercher. Alors, je suis pas docteur, mais j'étais prof pendant 10-15 ans, plus la coopération européenne, plus travailler sur l'Europe communautaire. J'avais 25 ans, tout en même temps et par hasard. J'ai des opportunités, je les prends et je. Bon, enfin, c'était du va comme je te pousse, comme beaucoup d'atypiques. J'ai été détecté il y a, je sais pas, 16 ans, 17 ans. Et puis, j'ai démarré dans le coaching quand ça existait pas, il y a 35 ans. Puis, j'ai créé la première organisation de coaching et puis la principale école de coaching, média de coaching, qui avait le plus haut niveau d'accréditation et de me chercher pour être co-directeur pédagogique. Donc, ça arrivait un peu comme ça, hein, ce que racontent certains atypiques. J'avais des opportunités, j'avais envie de me barrer. J'ai travaillé 10 ans en Guyane française, en Afrique, au Sénégal. C'est un peu du va comme je te pousse. J'ai des opportunités. J'étais content de me casser et de faire plein de trucs en même temps. Et puis, j'ai été détecté, ouais, il y a 16-17 ans. J'ai scanné à peu près tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'il sortait à peine un bouquin par an. Il n'y avait rien sur les adultes et adultes dans les organisations, ce qui est mon métier, hein, d'être consultant, coach, d'accompagner des codires, des transfos, des réorgs en France, à l'étranger, beaucoup pour des groupes. Et puis, je me suis dit, j'ai été médiatisé 10 ans sur le coaching, et puis, quand j'ai vu cette montagne magnifique qui me concernait, j'ai dit, je vais l'attaquer comme dans le coaching. Et puis, c'est fait plus de 15 ans. Et puis, maintenant, c'est une grosse partie de mes activités de conférences, de formation en France, en Europe. Je l'ai fait en Asie. En Afrique, il y a des conférences en ligne. Et puis, former des professionnels, développer ça, faire de la recherche, ouvrir des voies, en tout cas aller chercher des sujets sur THPI, sur femmes HPI, sur un certain nombre de choses. Ce qui est mon métier transverse, en fait, c'est la transmission des savoirs, la recherche et la pédagogie ou l'andragogie pour les puristes. Voilà, pour faire vite, il y a d'autres trucs, mais c'est toujours compliqué de me présenter. Sur les questions, et ça va ensemble, c'est-à-dire que j'ai jamais compris mégalomane, parce que moi j'avais plein de projets, je voulais transformer le monde, j'ai travaillé pour des fondations, pour l'Union européenne, sur la construction communautaire, j'étais sur plein de trucs en même temps. Donc on me prenait pour un barjo mégalo à l'époque, puis j'avais envie de prendre tous des projets en même temps, puis depuis j'ai acheté des étagères pour les ranger parce que je cours après. Et c'est en lien. Alors, dangereux, parce que je voyais bien que j'étais dangereux pour les gens, je comprenais pas, qu'ils me trahissaient, avec des gens qui étaient censés être des amis, mais ça continue, hein, d'être exposé à ça. Dangereux pour eux, mais comme en général, les gens savent pas dire pourquoi, ils n'ont pas le courage, ou ils n'ont pas les mots, ou ils n'ont pas le référentiel. Maintenant, je sais pourquoi. Mais pour autant, j'ai toujours ça. Et sur la troisième, ça c'est juste tout pourri et terrible. C'est-à-dire qu'on te dit rien, on t'oublie. On t'oublie, on te fuit, on t'ignore. Moi j'ai vu des gens m'éviter de se planquer, partir. Je pensais que c'était des amis. J'ai créé des réseaux, des organisations. C'est comme si les gens pouvaient pas pousser à côté de moi. Ce qui a jamais été mon intention, mais je mesure pas ce que je pouvais produire, c'était pas mon intention. Maintenant, je peux comprendre mieux, mais je peux aussi encore avoir ça. C'est-à-dire que soit tu le vis comme de la concurrence et de la compétition, ce qui est pas mon positionnement. Et dans ce cas-là, chacun est encombré avec ses propres fils invisibles. J'ai toujours eu ça. des gens qui m'évitent, qui me fuient, qui sont confrontés à leurs ombres, j'imagine. Ben maintenant, je sais expliquer ce que c'est. À l'époque, non, c'était terrible.
Justement, tu dis que tu as compris pourquoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quelle conclusion t'en es arrivé? Oui.
Si tu veux, avec les milliers de personnes que j'ai aidées à accompagner, alors y compris plus d'un millier de coachings, je ne les compte plus, mais pour les atypiques, quelques milliers aussi. Et puis tout le travail que j'ai fait sur THPI, TTHPI, c'est-à-dire qu'on déploie des choses.
Alors juste, excuse-moi, pour THPI, donc très haut potentiel intellectuel, pour préciser, pour les
auditeurs. Voilà, très haut potentiel intellectuel, si on prend la cartographie, l'espéranto commun, avec lequel je ne suis pas totalement d'accord, mais c'est le truc commun, donc je l'utilise quand même, c'est au-dessus de 145 de QI, 1 pour 1000 d'homologue. TTHPI, c'est au-dessus du test, c'est 1 pour 30 000 de QI, TTHPI.
Merci.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit pas l'effet qu'on produit. Et puis, ça serait pire si j'étais une femme, hein, parce qu'elles prennent plus cher. On voit pas l'effet qu'on produit de ce que ça veut dire chez les gens que ça leur appartienne. Tu vois, par exemple, tu as des femmes qui me disent, mais quand je suis au boulot, je dis pas tout ce que je fais. C'est pas que j'ai 3 enfants, que je fais du sport, que je crée une association, que j'ai aussi ma petite activité de machin, tu vois, et puis que je vais passer un master ou un doctorat.
Mais je vois bien.
Je dis pas tout ça. Et parce que je vais me faire allumer. Si t'es un homme, tu te fais moins allumer. Si t'es une femme, c'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres femmes, elles projettent ça en disant, mais en fait, moi, je suis conne, je sais pas faire ça. C'est l'ego qui est projeté. Sinon, on devrait être fier. On dirait, c'est super, t'es génial, t'arrives à faire des choses formidables. Non, 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 c'est de l'ego, de la jalousie, de la compétition, plein de trucs à la con. Pour les hommes, ça dépend un peu de leur stabilité émotionnelle et de ce qu'ils peuvent projeter au-dessus. Donc les femmes, ça va être un peu différent, mais il y a des choses de cette nature-là. Des femmes qui me disent, mais en fait, j'ai des amis. C'est quoi je leur dis, ça s'appelle pas des amis. Quand elles ont besoin de moi, elles viennent me chercher. Quand elles organisent des bouffes ou des soirées, je suis pas là. Ouais. Une femme atypique seule, par exemple, ben va avoir ses copines qui vont l'éviter parce que elle voit ce qu'elle produit sur leur mari ou sur leur copain. Et tout ça, c'est les parties invisibles. Moi, ce que j'essaie d'expliquer pour les femmes, pourquoi les femmes HPI produisent des choses particulières chez les autres femmes ou chez les hommes, du fait d'une énergie qu'on voit pas. Ben moi, j'ai une énergie que je vois pas. Alors, je l'ai apprise par rapport à l'extérieur. Pour une part, je m'en fous un peu, mais c'est pas l'essentiel de ma vie. J'ai fait ça, mais je trouve ça dégueulasse. Mais je comprends. C'est cohérent.
Ouais. Mais justement, tu parlais des personnes que tu accompagnes, un peu de ton parcours, du coaching et tout ce que tu as fait. Comment t'en arrivais là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou est-ce que...
Ah non, non, jamais. Mais tu sais, c'est un peu... J'ai expliqué ma présentation, mais en lien avec la thématique là. C'est un peu du va comme je te pousse. Moi, je suis sorti de Sciences Po. Enfin, j'ai été directeur pour mon prix. À 25 ans, j'étais directeur de magasin de 150 personnes. Co-directeur d'un super M à Viry-Châtillon de 450 personnes, donc j'étais un peu dans la jungle. Et puis après, il y a un cabinet à Bordeaux, une organisme de formation qui cherchait un cadre sup de 50 ans qui m'a embauché à 28 pour diriger un cabinet de consultants et le développer. Il savait pas pourquoi. Puis j'ai un autre copain qui est devenu un copain qui était directeur d'un département à l'université, qui m'a dit, viens, j'ai des trucs sur la formation, l'Europe. Après, il m'a dit, bah écoute, les gens ont l'air d'être contents, je sais pas ce que tu leur fais, mais je t'aime bien, ils sont contents, je t'emmène en Guyane, on a travaillé 10 ans en Guyane française, sous contrôle pédagogique de l'université de Bordeaux, j'y allais 3-4 fois par an. Et puis, je suis arrivé à Kedge, et puis l'école de management, c'est des rencontres, mais j'étais pas en méta, j'étais plutôt content qu'il y ait des gens qui me fassent confiance parce que c'était pas, tu vois, le truc général. Je veux dire, ils vont peut-être se rendre compte que je merde un peu parce que quand même donner des cours en licence, en master à Cayenne pendant plusieurs années, j'avais un cours, j'étais responsable d'un cours de management international, management multiculturel pour un master de RH international. Donc si tu veux, j'avais des opportunités. Moi, tout est petit, donc dès que j'ai des trucs où je peux jouer avec des gens qui me font confiance, j'y vais. Et puis ça challenge un peu, donc je serre un peu les fesses et puis ça passe. Mais j'ai beaucoup souffert hein, de tout ça. Mais si tu veux, ça arrivait un peu comme ça. Et puis un média de coaching, j'avais une petite camarade qui me dit, tu sais ce que tu fais, c'est surdoué. J'ai arrêté tes conneries. Si j'étais surdoué, j'aurais pas eu tous les emmerdes que j'avais. jusque-là. Et donc, elle fait du coaching. Elle est spécialisée aussi sur la douance. Elle me dit, mais je l'avais vu il y a 2 ans, mais je te l'ai pas dit. Tu vois, ça, c'est intéressant et important. Et je la remercie. Un, qu'elle me l'ait pas dit. Et après, qu'elle me l'ait dit, elle me dit, c'était pas le bon moment. Elle avait raison, c'était pas le bon moment. Et après, elle me dit, voilà ce que c'est sur nous. Ben, j'ai dit, alors, évidemment, je suis concerné. Je suis allé faire passer un test avec une psy concernée qui avait écrit un bouquin et qui m'a dit, j'ai bien compris quand t'es venu me voir, c'était pour me tester, moi, le test. Ben, j'ai dit, évidemment. J'ai dit, moi, j'avais pas de doute. Par contre, je voulais bien voir tous ces machins-là. Et puis après, quand j'ai vu que c'était le désert, moi, dans le coaching, j'ai été médiatisé pendant 10 ans. C'est la deuxième fois dans ma vie. Et j'ai dit, mais putain, surdoué, adulte, il n'y a rien. Adulte, entreprise, il n'y a rien. Je connais ce monde par cœur et je travaillais dans des groupes. J'étais superviseur des coachs internes à l'ANPE, à Pôle emploi. J'étais référencé dans toute la SNCF. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour mettre en place un groupe HPI à la SNCF. Ce qui s'est fait après, sans moi, et c'est très bien, je m'en fiche, le principal, c'est que les choses arrivent, ou dans d'autres boîtes, Caisse des dépôts, EDF, ou des choses comme ça. Et je me suis dit, ben, je vais recommencer, et il n'y a rien, puis ça a de la gueule quand même, HPI surdoué. Voilà, donc je vais dire, je vais faire comme d'habitude, je vais faire de la recherche, de l'ingénierie, je vais concevoir, c'est mon métier, je vais faire des séminaires, c'est mon métier, je vais faire de la recherche, c'est mon métier, et je vais transmettre des savoirs, c'est mon métier. Et puis j'ai fait de la formation parce qu'en même temps, donc 10 ans en Guyane, 4 ans et demi à BEM Dakar, qui est l'école de management à Dakar, puis au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et puis je fais aussi de la coopération internationale depuis 30 ans. Donc j'ai fait des missions pour l'Union européenne. Donc en Tunisie, il y a une conférence en ligne. Au Togo, il y a une conférence en ligne. Je suis allé aussi dans d'autres pays. Et puis avec mes petits amis en Asie, on a fait un gifted tour Hong Kong, Singapour. Bali, Cambodge, Phnom Penh, puis Macao à côté de Hong Kong. Bon, puis après, il y a eu le Covid, donc ça s'est un peu calmé.
Et donc, à chaque fois, des opportunités qui t'ont fait avancer, tout bouger, temps. Mais c'était pas tracé, quoi.
Il y avait rien de tracé, mais rien du tout. Et puis, il y a 15 ans, en fait, quand j'ai vu tout le bordel qu'il y a sur le coaching, parce que c'est quand même un gros cirque avec des trucs que je partage pas. Moi, j'ai créé la première organisation de coaching en France, mais c'est un réseau, pas une association. C'est-à-dire que j'étais référencé dans plein de groupes, mais je voulais pas cautionner plein de pratiques avec lesquelles j'étais pas d'accord. Ça, c'était en 94. La SF Coach a été créée en 96. Après, il y a eu MCC. Et je me suis dit, j'avais déjà l'idée qu'en 80, il y a 15 ans, 16 ans, moi, je voulais pas rester dans le coaching et être confondu, ce que je commençais à avoir dans les organisations, avec des gens qui faisaient des achats et des marchés qui étaient vraiment pas compétents. Au mieux, qui étaient bêtes et méchants, au pire, parce que si c'était des acheteurs ou des RH ou qui venaient d'être formés la veille ou soir, moi j'ai un CV de 8 pages sur le coaching, donc si tu veux, ça peut faire des tremblements de jalousie, de prétention, de compétition, de plein de trucs à la con. Et j'ai travaillé 10 ans dans le désert, c'est-à-dire en partie à perte hein, sur la douance, par rapport à tous ceux qui parlent de business à la con, enfin, pour de projections négatives. C'est-à-dire, j'ai fait des formations, j'avais 3 personnes. Mais ça fait 10 ans que je forme des professionnels, donc j'ai un réseau de confiance assez important. Mais pendant 10 ans, j'ai fait de la formation, de la recherche, et c'est mes autres activités qui finançaient tout ça. Et aller essayer de convaincre dans les boîtes, partout, faire des réunions avec des responsables de CODIR, CATSUP, COMEX parfois, RH, en leur disant qu'il faut développer des trucs, tout ça à mes frais.
Alors, qu'est-ce que t'en penses justement? T'en parles à demi-mot un peu, mais entre guillemets, cette mode-là qu'on a vue ou qu'on voit arriver sur tous ces sujets, alors le HPI, mais plus globalement aussi la neurodiversité. Comment tu regardes tout ça?
Alors, j'ai plusieurs avis en même temps.
Ça m'aurait étonné.
qui sont pas totalement contradictoires. En synthèse, si tu veux, on a 40 ans de retard sur les États-Unis, donc il fallait bien que ça arrive à jour. On voit un effet Barnum qui a un côté positif. C'est pour moi au bénéfice des enfants. L'enjeu, c'est les enfants. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, il y avait 3 garçons testés pour une fille. Aujourd'hui, on est à 2 garçons testés pour une fille. On va se rapprocher de la parité. Donc, c'est tout bénef pour les enfants. Pour moi, c'est la priorité. Chez les enfants, c'est tout bénef pour les petites filles. Ça, c'est l'autre priorité. Et par effet domino, c'est tout bénef pour les femmes. Parce que l'essentiel de la danse est porté par les femmes qui sont aussi des mères, qui sont engagées. Enfin, t'enlèves les femmes, c'est plus un sujet. Donc, globalement, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Après, ce que je vois qui est misérable et dommageable, mais c'est inhérent à la nature humaine, telle que je la vois, c'est des espèces de jeux, de projections, de jalousie, d'instrumentalisation, de conflits, de rapports de force, de trucs partisans, d'égo, de trucs tout pourris. Donc j'évite, j'ai de quoi répondre sur tous ces sujets-là, si tu veux, faut pas te revenir me chercher. Mais j'évite d'aller dans ces débats parce que ça sert à rien. Comme le débat sur lequel je continue à partir, c'est-à-dire que ce qu'ont reconnu un certain nombre de gens comme Jacques Lautré, comme d'autres personnes, comme Cécile Boz, c'est que tu as des gens qui ont plus de 130 qui ne sont pas surdoués, que le test n'est pas suffisant pour qualifier la douance, et qu'on peut être HQI pas surdoué, et tant mieux, on n'a pas les emmerdes des surdoués. Mais il peut y avoir des HQI qui ont des problèmes, ça c'est pas traité. Parce que ça requiert d'avoir un engagement, une responsabilité professionnelle. Et beaucoup de professionnels avertis le savent bien. Donc, si tu veux, ça met en tremblement les psys, lesquels peuvent être en conflit les uns avec les autres. Ça met en tremblement les psys, les groupes partisans, je vais éviter de donner des noms, les chercheurs, les gens qui produisent des bouquins, plus tous ceux qui couinent ou qui râlent, ou qui se font des avocats de je ne sais quoi, qui n'ont pas tout compris, mais qui pensent en savoir suffisamment pour avoir un mot à dire. Ça, c'est un gros bordel, beaucoup de maltraitance, car rien à voir là-dedans, mais c'est ce que ça génère, ça ou n'importe quoi, parce que parlons de QI, pour moi, il y a une grosse confusion de ce que j'appelle le triangle dramatique, le QI, la douance et l'intelligence. Ça se croise, mais ça ne se superpose pas. Mais si on pouvait commencer par mettre du respect, un peu de compréhension, un peu d'écoute, un peu d'acceptabilité. Donc ça s'enflamme vite. Moi, ça m'intéresse pas.
Oui.
Ça ne m'intéresse pas. Donc je fais mon job, j'ai beaucoup d'alliés, j'ai beaucoup de réseaux. J'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu. J'essaie de faire mon job proprement et dire ce que je pense. Je m'arrête là. J'ai pas 20 ans, donc si tu veux, je vais pas être éternel. Et puis ce qui adviendra de moi, je m'en fous. Tu vois, je m'en fous complètement. Ce qui n'est pas le cas de certains atypiques qui voudraient faire une grande œuvre dans leur vie ou que quelque chose leur survive. Moi, je m'en fous. Au-delà de ça, j'ai un côté perfectionniste et engagement qui est un peu chiant, mais je sais faire bien mon boulot. C'est tout.
Bah, merci beaucoup, Fabrice. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, il y a autre chose que tu souhaiterais partager? Un conseil peut-être pour les personnes qui écoutent ou qui se posent des questions ou leur entourage?
Alors, pour les personnes qui viennent d'être détectées, qu'elles attendent quelques mois avant d'en voir partout, parce qu'elles vont en voir partout, que c'est un sujet assez subtil et délicat, qui requiert quand même de travailler tout seul, contrairement à ce que disent certaines personnes, un surdoué peut tout à fait s'auto-diagnostiquer, et que dans tous les cas, quelqu'un qui est concerné, il y a toujours une partie qui n'a pas de doute. Donc, ça peut se faire de manière apaisée, ça peut être bien de choisir les interlocuteurs, et avec qui on travaille, on se fait aider. Et le bon côté du Barnum, c'est quand même il y a de plus en plus de professionnels. Donc je pense que l'effet du Barnum va commencer à se calmer et qu'on va un peu plus se normaliser, mais ça continue. Après, ce que j'espère, c'est qu'on aille reposer des questions, en particulier sur ce test qu'a 100 ans, ce qu'expliquait Jacques Lautré, hein, qui est quand même un spécialiste et conseiller au ministère. Et moi, je cherche pas à faire des combats, même si je peux très bien faire la guerre, mais plutôt qu'on trouve des solutions apaisées. Moi, j'aime la recherche, mais à condition qu'elle soit bien faite. Et puis, j'espère, parce qu'il y a la question de l'entreprise, que ça va se développer en entreprise, mais en entreprise, c'est compliqué avec les jeux de tension qu'on a depuis 3 ans. Donc je peux aussi comprendre le positionnement des neurotypiques, hein, que j'accompagne depuis 30 ans dans les organisations, des jeux de tension, des peurs. Il y a beaucoup de peur là-dedans, beaucoup de peur, beaucoup de maladresse. Donc il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour les maladresses, y compris pour les malveillances, pour ça ou pour n'importe quoi d'autre, hein, aussi pour des autistes. Moi, j'accompagne des autistes Asperger ou des multi-machins, HPI, THPI, TDAH, TSA 10. Ça serait bien de mettre un peu de tolérance dans tout ça. Et moins d'ego. Moins d'ego. Il y a beaucoup trop de jeux d'ego.
Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle conclusion sur la tolérance, plus de tolérance et moins d'ego.
Ouais.
Bah merci beaucoup. Merci Fabrice.
Je t'en prie.
Et de mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.